France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Mercredi 24 avril, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Bonjour Bernadette Chamonaz.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un projet de loi Notre-Dame à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Objectif, encadrer les dons et engager la reconstruction de la cathédrale. Et on le sait, le chantier est immense. Les autres titres, Bernadette.
Ascoval, le bout du tunnel, plusieurs repreneurs solides. Le tribunal les examine aujourd'hui. Tous unis autour de Bellamy, lancement de campagne européenne en confiance pour les Républicains. Hier à Caen, nous y serons. Nous irons au Sri Lanka où les musulmans s'alarment de la radicalisation dans leur rang. Et puis quand les champions apprennent à nager aux petits de banlieue, coup d'envoi de l'opération Nageurs Citoyens.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À 7h50.
Un des papes du thriller judiciaire, il a un talent fou pour raconter les hommes de loi pas droit, le pouvoir de l'argent, les arnaques, et vous connaissez Ali, hein,
évidemment.
L'affaire Pélican, la firme, son nouveau roman est en librairie, et John Grisham, c'est bien lui, est sur France Inter à 7h50.
Et à 8h20, l'unité des gauches françaises est-elle possible? Jean-Luc Mélenchon appelle ce matin à une fédération populaire dans Libération. On en parle avec le député de Seine-Saint-Denis et porte-parole de la France Insoumise, Alexis Corbière, il sera l'invité du grand entretien. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
Notre-Dame sous un immense parapluie pour la protéger de façon permanente des intempéries, des bâches ont commencé à être installées d'abord à l'intérieur, chœur, nef, l'extérieur viendra ensuite, le tout pourrait prendre des semaines. Et puis en Conseil des ministres ce matin, le projet de loi sera présenté pour encadrer le concours international pour la reconstruction et comme pour les dons, il provoque un immense élan, Isabelle Pasquier.
Quand les jeunes architectes de l'école d'archi de Belleville ont vu Notre-Dame en feu, bouleversés, ils ont tout de suite voulu créer un chantier de réflexion pour redonner son visage à la cathédrale. Bien sûr, ils ne pourront pas forcément concourir comme les stars architectes de niveau international. Alors ils cogitent en faveur d'un chantier participatif. Parmi eux, Roxane Tribu.
Tout de suite est venue l'idée de monter une réflexion collective autour de ce projet qui doit être un chantier qui doit appartenir à tout le monde et pas à un architecte. Effectivement, plusieurs idées nous viennent. Est-ce qu'on doit reconstruire ce bijou d'architecture tel qu'il était, est-ce qu'on doit en faire un hologramme sur un court terme présent pour les Jeux Olympiques ou en ayant des jeux de lumière, quelque chose qui soit de la notion du souvenir.
Même démarche du côté d'Odile Deck, femme architecte très radicale, audacieuse. Pour elle aussi, le concours doit être ouvert à tous, même à des ados qui ont des idées.
C'est un défi incroyable qu'on a à faire. Et vous savez, c'est très très intéressant parce que ce midi, je déjeunais avec une fille qui a 14 ans et qui pendant le week-end a dit à sa mère « Moi, je pense que je voudrais la dessiner. J'aimerais bien participer à ce concours. » Ça veut dire qu'on peut ouvrir le concours énormément. Et je ne serais pas contre qu'il y ait des gens très jeunes qui nous fassent des propositions.
Un constat, la restauration de Notre-Dame mobilise tous les imaginaires pour relever ce défi, réussir à toucher les étoiles comme le faisait la flèche effondrée.
Alors, on le sait, pour la reconstruction, le président de la République a fixé un objectif, 5 ans, en Conseil des ministres. C'est donc une loi d'exception qui va être présentée aujourd'hui, dérogation au code du patrimoine, ce qui signifie pas d'obligation de reconstruire à l'identique, ce qui fait bondir certains spécialistes comme Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art, président de l'association Sites et Monuments, au micro de Céline Asselot.
Il faut vraiment donner du temps à l'expertise et laisser le monument parler. Vous savez, les monuments anciens, ils nous parlent. Si on les écoute pas, on est sûr qu'on va faire une erreur. C'est pas la première fois que ça arrive dans le patrimoine et dans l'histoire de la France. Et ce sont des chantiers qu'on sait tout à fait gérer. Donc, on est en train de tailler sur mesure pour Notre-Dame une loi qui, peut-être, l'enfer est pavé de bonnes intentions, peut paraître une bonne idée. Mais pourquoi court-circuiter toutes les procédures existantes qui ont servi après les deux guerres mondiales, qui ont servi au 19e siècle, quand il y a eu aussi des incendies de cathédrales? Et tout ce savoir accumulé, tous les services du ministère de la Culture, ils ont été annulés d'une minute à l'autre par la parole présidentielle. Alors pourquoi faire des lois si ensuite on fait des lois d'exception? Pourquoi donner des règles à tout le monde si ensuite d'autres s'en affranchissent?
On a beaucoup parlé de la générosité des grandes fortunes qui avoisinent les 800 millions d'euros. Eh bien, les dons des particuliers sont impressionnants aussi. 163 millions d'euros collectés par la Fondation du patrimoine, des dons qui viennent du monde entier.
7h05, la suite du journal et le dossier Ascoval maintenant. Et si c'était le bout du tunnel, Bernadette?
Les 270 salariés de l'usine de Saint-Saulve dans le Nord restent prudents après 4 années de soubresauts. Et puis comment oublier aussi la volte-face d'Altifort en février. Et donc ce matin à 9h, le tribunal de commerce de Strasbourg va statuer sur les nouvelles offres de reprise avec cette fois Maxime Debs, un réel espoir.
4 offres de reprise ont été déposées, mais clairement deux sortent du lot. L'une d'un investisseur bien connu en France, déjà le britannique British Steel, qui exploite depuis 2016 l'usine d'Ayange en Moselle, et l'autre de l'italien Calvi. Les salariés espèrent beaucoup de ces deux projets qui promettent le maintien de tous les emplois sans exception. Inespéré comme situation il y a encore 2 mois, lorsqu'Altifort, alors seul en lice, avait finalement annoncé, à la surprise générale, ne pas avoir les moyens de reprendre l'usine. Surtout également, les deux repreneurs potentiels déjà contactés il y a plusieurs mois et que l'on dit aujourd'hui très motivés, ne l'étaient pas vraiment à l'époque. Le contexte a changé et c'est la chance peut-être d'Ascoval. Le britannique British Steel, par exemple, chercherait à garder un pied sur le continent européen en prévision d'un Brexit jusque-là occulté. Chercherait car aujourd'hui, comme on le rappelle, y compris au gouvernement qui suit ça comme le lait sur le feu, rien n'est fait. Que ce soit du côté de l'État mais aussi des syndicats, la volte-face d'Altifort en février reste encore profondément ancrée.
L'actualité sociale encore avec cette annonce du cabinet de la ministre de la Santé. Les retraités gagnant entre 1200 et 2000 euros qui ont continué à payer 1,7 de CSG depuis le 1er janvier vont être remboursés. Ce sera le 9 mai prochain. 3,5 millions de foyers sont concernés. Cette hausse, on s'en souvient, avait été annulée le 1er janvier dernier pour toutes les retraites en dessous de 2000 euros. Mesure destinée à répondre à la colère des gilets jaunes et pour les petites retraites en dessous de 14 500 annuels, bien rien ne change puisqu'elle n'était déjà pas concernée par la hausse.
Politique, les Républicains lançaient hier leur campagne pour les élections européennes.
Hier à Caen, c'est la mine réjouie que le président du parti, Laurent Wauquiez, lance. Nous sommes rassemblés comme jamais. Photos de famille soignées, qui plus est à la veille de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Quelle belle occasion de se poser en premier parti d'opposition.
Face aux militants, le patron du Sénat, Gérard Larcher, venu soutenir sa famille politique, donne le ton en début de meeting.
Nous avons rarement vu une campagne se dérouler dans de telles conditions. Une crise sociale sans précédent. Un grand débat qui s'est éternisé, dont les conclusions, point de suspension, laissent déjà un avant-goût de tout ça.
Peu d'attente donc pour Gérard Larcher, peu d'attente aussi parmi les militants. Beaucoup ne regarderont pas.
Je n'écoute jamais M. Macron. Il faut un décodeur pour comprendre ce qu'il dit. Moi je comprends rien quand il parle Macron.
On va la regarder, mais on n'attend pas grand-chose.
Est-ce que vous, si vous étiez dans la salle face à lui, vous poseriez une question ?
Quoi lui demander ? Parce que j'ai l'impression qu'il est tellement inactif.
Quelles questions poseriez-vous au président ? Préciser le projet européen, répond un militant normand. Préciser le futur acte de décentralisation, dit un autre. Une question sur l'agriculture, s'enflamme ce troisième.
Oui, il veut tuer le monde agricole. C'est l'enfer aujourd'hui. On n'arrête pas d'avoir des normes sans cesse. On a un taux de charge énorme. Ça n'a jamais été aussi négatif depuis que Macron est arrivé au pouvoir.
Des électeurs qui, quelles que soient les réponses d'Emmanuel Macron, ne changeront plus d'intention de vote. Dans les urnes, pour eux, ce sera la liste LR.
Chers amis, quelle immense joie d'être ici.
Menée par François-Xavier Bellamy.
Un reportage donc hier à Caen d'Élodie Forêt. Pas question de gâcher le moment. Très peu de réactions, voire pas du tout, après l'annonce dans la journée du renvoi du couple Fillon en correctionnel pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. À gauche, l'appel de Jean-Luc Mélenchon à la création d'une fédération populaire. Dans le journal Libération aujourd'hui, le leader de la France insoumise invite la gauche à se rassembler sans tambouille, je cite, pour se préparer à gouverner autrement. Au Sri Lanka, 4 jours après les attentats, la menace terroriste est toujours là. Les autorités affirment que plusieurs hommes armés, munis d'explosifs, pourraient encore agir. Et elles révèlent qu'une attaque sur un 4e hôtel de Colombo a été déjouée. Des autorités qui sont critiquées pour avoir ignoré la menace que certains dans la communauté musulmane sentaient. C'est un reportage d'Antoine Guinard dans l'une des principales mosquées de Colombo.
Derrière son bureau, dans l'enceinte de la mosquée Jawate Juma, dans le centre de Colombo, Reyaz Saleh est en permanence au téléphone avec des responsables politiques, des journalistes ou des leaders religieux depuis dimanche. Pour le recteur de ce lieu de culte soufi, une branche spirituelle de l'islam, les attentats du 21 avril visant en premier lieu les chrétiens sont l'expression d'une radicalisation croissante longtemps ignorée par le gouvernement et les musulmans eux-mêmes.
J'ai été un des premiers à dire qu'il y avait de l'extrémisme religieux dans ce pays. C'était en 2010. Les extrémistes commençaient à détruire des lieux de culte soufis dans l'est du pays. Donc nous nous sommes élevés contre ça.
Reya Souley évoque également l'argent des pays du Golfe utilisé par les extrémistes pour endoctriner les plus démunis en les aidant financièrement, en particulier dans l'est du pays. En février dernier, il avait prévenu les autorités de l'existence d'une vidéo dans laquelle un certain Zahran Hashim tenait des propos haineux. Cet imam radical autoproclamé a été désigné mardi par la police comme le cerveau des attentats du dimanche de Pâques. Certains médias affirment même qu'il figurait parmi les kamikazes qui se sont fait exploser à Colombo. Thèse qui reste à confirmer. Colombo, Antoine Guinard, France Inter.
Et le bilan des attentats est maintenant de 359 morts, 500 blessés, des attentats revendiqués hier par le groupe État islamique. Kim Jong-un est reparti pour un long voyage, toujours dans son train blindé, direction Vladivostok, port de l'extrême-orient russe sur le Pacifique. Le dirigeant nord-coréen, qui ne prend quasiment jamais l'avion, va y rencontrer demain Vladimir Poutine. Premier sommet entre les deux hommes. Après le fiasco de sa rencontre avec Donald Trump en février, Kim Jong-un est toujours à la recherche de soutien international. Quand un champion vous tient par la main pour plonger dans le grand bain, coup d'envoi hier à Vanves de l'opération Nageur Citoyen. Yannick Agnel, Charlotte Bonnet, Mehdi Metella, les plus grands nageurs français étaient là pour apprendre aux enfants à nager. Un enfant sur deux ne sait pas nager en entrant au collège. Et c'est encore pire dans les quartiers difficiles. C'est un reportage de Valentin Dunat.
Bonnet sur la tête, lunettes ajustées, Paloma et Victor font leurs premiers gestes dans l'eau.
On apprend à nager. Eh ben c'est bien, mais pour les bébés, ça fait un petit peu peur pour les bébés par contre.
Vous, ça va ?
Bah oui.
Elle est bien ta prof ?
Oui, évidemment. Parce que c'est une championne.
La prof en question, c'est Charlotte Bonnet, médaille d'or du 200 mètres au dernier championnat d'Europe, bien décidée à aider ses enfants.
Il y en a qui viennent des quartiers un peu plus défavorisés d'Île-de-France, qui ne voient jamais la piscine, parce que c'est loin de chez eux, parce que des fois ça coûte cher aussi. C'est pas donné à tout le monde et les avoir ici aujourd'hui, j'espère que ça leur donne envie de continuer un peu plus longtemps. Surtout d'apprendre à nager parce qu'il y a tellement d'accidents en France, dans le monde même. Ça arrive tellement vite que voilà, le but c'est de minimiser ça maintenant.
Et pour y arriver, celle qui a eu l'idée de ce projet, Sophie Camoun, ancienne nageuse olympique, a décidé de commencer par trois départements d'Île-de-France.
Les chiffres effectivement de noyades et d'enfants qui ne savent pas nager sont encore plus dramatiques effectivement. Dans les quartiers défavorisés et sur des populations habitant assez loin de la piscine ou dont les écoles primaires sont loin de la piscine. Donc on a ciblé ces enfants avant tout.
Sophie Camoun compte bien développer ce concept dans toute la France avec d'autres nageurs jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024.
Alors les petits verront aussi les champions à Clichy-sous-Bois ou encore à Vitry-sur-Seine. Et quand les champions seront partis, eh bien les mairies vont prendre le relais en offrant elles aussi une dizaine de séances par enfant.
Merci Bernadette, il est 7h13. La route.